Radio Okapi. Le journal Pascal Massirika.
À la une ce midi, en mission à Beni, la chef de la MONUSCO déplore l'attaque du convoi civil escorté par les FARDC et les casques bleus la semaine dernière. Bintou Keïta invite la population à considérer qu'il n'y a pas de risque zéro dans une opération humaine. Nord Kivu encore, plus de 3000 personnes ont déjà reçu leur deuxième dose du vaccin AstraZeneca pour se mettre à l'abri du coronavirus. Le médecin coordonnateur du PEV affirme que le vaccin disponible expire à la fin de ce mois. Notre invité, c'est le gouverneur du Kasaï. Dieudonné Piémé a séjourné en Bujimaï, au Kasaï oriental voisin, où il a lancé la formation de la première promotion de 200 agents de police, un projet mis en œuvre par l'OIM et financé par les États-Unis. Madame, Messieurs, bonjour. La chef de la MONUSCO déplore l'attaque du convoi civil escorté par les FARDC et les casques bleus en Ituri mercredi de la semaine dernière. Bintou Keïta invite la population de la région à considérer qu'il n'y a pas de risque zéro dans une opération humaine. Pour elle, des leçons ont été tirées pour améliorer la taille des convois et voir comment renforcer la protection. Elle est au micro d'André Kitenge.
Tout incident est toujours à déplorer, c'est clair. Donc quand la décision a été faite de faire ces convois pour permettre le trafic sur cette RN4, ça a pris du 7 août jusqu'au 1er septembre pour qu'on ait le premier incident. Et là, c'est plus de 1500 véhicules qui sont passés tous ces jours-là. Mais moi, je n'ai vu personne qui est venu dire « Ah, c'est positif !» On a tiré nos leçons de comment il faut améliorer la taille des convois et aussi comment renforcer la protection pour ces convois en sachant que on ne va pas se laisser intimider par le fait qu'il y a eu deux incidents sur une période qui a été aussi longue sans qu'il y ait aucun incident. Donc moi j'invite tout un chacun et chacune à se rappeler qu'il n'y a pas de risque zéro dans aucune opération humaine et que quand on a des accidents, ces accidents doivent nous amener à faire de l'introspection pour voir comment améliorer, comment on fait les choses la prochaine fois, mais il ne faut pas tout détruire.
Au sud Kivu, pendant ces temps, les FARDC poursuivent la traque des groupes armés locaux et étrangers dans la plaine de la Ruzizi. Hier, jeudi après-midi, un campement de la coalition Mai Mai, Kijangala, Kapapa et des FNL a été détruit au village de Rukobero. Le bilan fait état de miliciens neutralisés, d'autres capturés et une importante quantité d'armes et munitions récupérées. La nouvelle est confirmée par le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2, le major Dieudonné Kasereka, est au micro d'Emmanuel Elamejo Kabili.
Le FARDC affirme avoir détruit le bastion des miliciens Kijangala et Kapapa qui insécurisaient la population sur le tronçon Bukavu-Uvira dans la plaine de la Ruzizi. Ces miliciens Maïmaï pillaient, kidnappaient les gens, ils volaient les biens de la population, même les vaches. Ils pillaient même les passagers à bord des bus. Ainsi que les autorités militaires ont décidé de mener une opération pour détruire leur bastion. Et pour le moment, nous avons réussi à neutraliser deux parmi eux. Nous avons récupéré des armes, des grenades et des munitions en vrac. Et pour le moment, nous sommes en train de les pourchasser là où ils ont fui, vers la forêt. Ces gens ont toujours collaboré avec d'autres groupes armés venant des pays voisins. Et c'est comme ça que nous sommes en train de les poursuivre pour essayer de pacifier toute la partie de la plaine de la Ruzizi, parce que la population a tant souffert dans cette partie de la province du Sud Kivu.
Sud Kivu encore, le docteur Denis Mukwege insiste sur l'établissement d'un tribunal pénal international pour la RDC et le soutien des Nations Unies à la mise en place des chambres spécialisées mixtes. Le prix Nobel de la paix 2018 l'a dit dans une déclaration faite hier à Bukavu suite à la montée de l'insécurité au Nord Kivu et en Ituri malgré l'état de siège. Question, quelles sont les solutions préconisées par le docteur Denis Mukwege pour restaurer la paix dans ces régions? La réponse avec vous, Cynthia Bachizina Bizana.
Le docteur Mukwege part d'abord d'un constat, celui de l'échec des solutions politiques et sécuritaires pour pacifier les Kivu et l'Ituri. Il est donc convaincu que seule l'appropriation des mécanismes de justice transitionnelle permettra un retour durable de la paix dans ces provinces. Le temps est donc venu pour le chef de l'État de concrétiser son engagement à faire adopter une stratégie nationale holistique de justice transitionnelle, rappelle le prix Nobel de la paix 2018. Ainsi, en prélude de la prochaine Assemblée générale annuelle des Nations Unies, Denis Mukwege invite le président Tshisekedi à demander de manière expresse à l'ONU l'établissement d'un tribunal pénal international pour la RDC, mais aussi le soutien des Nations Unies à la mise en place de chambres spécialisées mixtes. Docteur Denis Mukwege est persuadé que ces actions sont nécessaires pour rendre justice aux victimes des crimes les plus graves et mettre fin à la culture de l'impunité qui alimente les conflits dans notre pays depuis les années 90. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Faisons maintenant un détour par l'Ituri où le député provincial Hubert Berak Chohan a écopé d'une année de servitude pénale principale pour rébellion. Le verdict a été prononcé tard la nuit dernière à Bounia, chef-lieu de la province, par la cour militaire qui siégeait en procédure de flagrance. La cour militaire s'est cependant abstenue de divulguer les faits de propagation de faux bruits et d'imputations dommageables retenus à charge de cet élu de Bounia par le ministère public. Un reportage à Bounia de Martial Kizabiamungu.
Arrêté jeudi après-midi à Bounia, sur ordre du vice-gouverneur de l'Ituri, le député provincial Hubert Berochad a été directement mis à la disposition de l'auditorat militaire supérieur. En effet, il est accusé d'avoir perturbé l'ordre public en pleine cérémonie officielle présidée par le vice-gouverneur pour la remise de kits informatiques, un don du gouvernement central à 11 écoles publiques de Bounia. Selon le ministère public, le député Hubert Berochad se serait improvisé en surveillant et contrôleur du matériel rébis. Après 8 heures d'audience, la cour militaire de l'Ituri s'est prononcée et a reconnu l'élu de Bounia coupable des rébellions, le premier président de la cour militaire de l'Ituri.
La prévention des rébellions mise à charge du prévenu Béro Piasset et l'en condamne en conséquence. Une année de servitude pénale principale ordonne son arrestation immédiate.
Les collectifs des avocats du condamné annoncent qu'ils vont faire appel à cette décision qu'ils qualifient d'injuste. Maître Christian Outeki s'est dit confiant quant à l'issue de cette nouvelle procédure car il estime que l'ordonnance du chef de l'État décrétant l'état de siège n'interdit pas à un député de porter son regard sur l'utilisation de biens publics. Maître Christian Outeki.
L'ordonnance du chef de l'État ne lui interdit pas ni de se présenter à une cérémonie officielle.
Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Santé à présent. Au Nord Kivu, plus de 3000 personnes ont déjà reçu leur deuxième dose du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus. C'est le résultat de la deuxième phase de la vaccination lancée depuis le 17 août dernier. Selon le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination dans la province, les nouveaux vaccins sont attendus pour permettre à la population d'avoir un choix. Il précise que le vaccin AstraZeneca disponible en province expire à la fin de ce mois. Docteur Hans Batei invite par conséquent les personnes qui n'ont pas encore reçu leur première dose de vaccin à passer au site de vaccination pour le recevoir. Il le dit à Rosalie Zawadi.
On devrait vacciner 6775 et jusque là nous sommes déjà à plus de 3300 vaccinés au niveau de nos sites de vaccination dans la province du Nord Kivu. On vaccine aussi pour les gens qui viennent pour la première dose. Ce n'est pas seulement les gens qui complètent leur deuxième dose. Nous vaccinons également toutes les personnes qui veulent recevoir leur première dose d'AstraZeneca. Donc, vous passez au site, on va vous vacciner, on va vous donner la carte. Et dans le mois qui va venir, il y aura les vaccins pour compléter leur deuxième dose. Nous avons aussi la nouvelle au niveau national. Ils ont reçu depuis le 6 de ce mois le vaccin Moderna, dont des États-Unis. On va introduire Pfizer, on va introduire les vaccins Sinovac, les Chinois, on va introduire aussi le J&J. Et le site principal de stockage, c'est au Nord Kivu et au niveau national.
Le docteur Hans Bataillé ajoute que le bureau du programme élargi des vaccinations à Goma a déjà préparé le local et des congélateurs de grande capacité pour le stockage des nouveaux vaccins. Dans l'Équateur maintenant, les membres du syndicat des enseignants du Congo basé à Lukolela ont évalué hier jeudi après-midi leurs conditions de travail et la gratuité de l'enseignement fondamental. Ils ont décrié 11 points de dysfonctionnement constatés lors de l'année qui vient de s'achever, parmi lesquels le non-paiement des agents dénommés nouvelles unités, le non-versement du salaire du mois d'octobre 2020, disparu dans un incendie du convoi motorisé, mais aussi le non-paiement de 15 mois de frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires. Dans un mémorandum adressé aux autorités nationales et provinciales, ils ont décidé de conditionner la prochaine rentrée scolaire. Des précisions avec leur secrétaire permanent, Trésor Epanga, a été joint par Paul Richard Malengela.
Après avoir terminé ici, nous allons déposer les rapports chez le gouverneur. Ici, on va déposer sur la ministre territoire. Nous allons envoyer même chez le ministre pour qu'il sache que notre assemblée générale, nous avons décidé qu'il n'y aura pas la rentrée scolaire 2021-2022. À condition que l'État nous paye le mois d'octobre 2020 et les 15 mois de fonctionnement de la Caritas ne remettait pas sur détachement depuis 2017-2018. Et nous avons suggéré aussi la situation des NI parce que nous avons compris qu'il y a à peu près 3 années, depuis que l'État a proclamé la gratuité de l'enseignement, nos amis pleins comme ça, ils ne sont pas payés leurs conditions de travail. C'est très difficile, c'est pourquoi nous avons jugé pour que cette rentrée fonctionne par la paye des MI et le paiement des mois d'octobre 2020 et les 15 mois de fonctionnement. C'est tout le sous-disant parce qu'on a été l'Assemblée générale avec sous-division du collé la 1, le collé la 2, le collé la 3 et le collé la 4. On a été tous ensemble.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. Au Maniema, les organisations de la société civile intervenant dans la gouvernance minière se disent vivement préoccupées par le contenu de la lettre du ministre des Mines adressée au président des négociants, coopératives et des transporteurs miniers artisanaux du Grand Kivu. Ces organisations notent que cette lettre du ministre national des Mines n'a pas pris en compte certains règlements dont celui interdisant la sortie des minerais du Maniema par voie aérienne. Des précisions avec le directeur exécutif de l'ONG Maniema Liberté, Adalbert Chabani, est au micro de Florence Kizalunga.
Les organisations de la société civile du Maniema, du groupe de travail gouvernance minière, recommandent à son excellence, madame la ministre, 1. De bien vouloir retirer son soutien à ces protocoles de collaboration entre CONECOMA, JICA, entendez par là, la Confédération des négociants coopératives et transporteurs et les trois gouverneurs de province du Grand Kivu, lequel protocole, en somme, n'est qu'un processus qui peut amener la province du Maniema en difficulté. 2. De confirmer et de renforcer la décision de son prédécesseur instituant 2 points de sortie des minerais à l'exportation à partir du Maniema, à savoir la ville de Kindu par voie ferrée et Lubutu par voie terrestre pour le nord. 3. De bien vouloir retirer l'agrément de fonctionnement octroyé à CONECOMA, JICA, car ne remplissant pas tous les critères exigés par la loi pour fonctionner comme une structure fêtière des sociétés coopératives minières.
Actualité internationale.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a plaidé jeudi après-midi lors d'un entretien avec l'AFP, l'agence France-Presse, pour que la communauté internationale entretienne au plus vite un dialogue avec les talibans en Afghanistan où il faut éviter une dégringolade économique avec des millions de morts. Et puis, avec le changement de régime en Afghanistan, le traitement réservé aux journalistes de la région se fait déjà sentir. Au motif que mercredi dernier, deux journalistes qui couvraient une manifestation des femmes contre le nouveau pouvoir des talibans ont été arrêtés avant d'être molestés. Women Watch Watch rappelle dans un communiqué publié ce matin que les restrictions arbitraires des droits à la liberté de parole et d'expression par la détention des journalistes et l'interdiction des médias et à la Réunion Pacifique sont interdites au regard du droit international relatif aux droits de l'homme.
L'invité.
Notre invité, c'est le gouverneur du Kassai qui a séjourné en Mbujimayi au Kassai oriental voisin. Dieudonné Piémé est venu lancer la formation de la première promotion de 200 agents de police de sa province dans le cadre du projet de la professionnalisation de ce corps mis en œuvre par l'Organisation internationale de migration OIM et financé par les États-Unis d'Amérique. Il s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour Monsieur Dieudonné Piémé, vous êtes le gouverneur de la province du Kassai. Vous vous retrouvez en ce moment au Kassai oriental. Qu'est-ce qui justifie votre présence en ce moment au Kassai oriental et à Tchoukouka?
Dans le cadre de la consolidation de la cohésion sociale telle que prônée par le président de la République, nous avons décidé de former la police qui va s'occuper de la proximité dans notre province. Et cette police de proximité, étant donné que c'est une tâche particulière, qui nécessite une formation particulière également. Et nous avons sollicité à obtenir la formation des agents de toute la province qui devraient s'occuper de cette tâche-là. Voilà pourquoi je me trouve ici pour lancer la première promotion et aider à ce que les policiers connaissent les règles nécessaires pour gérer la police de proximité.
Qu'est-ce que vous attendez de ces agents de la police après la formation?
Bien, ça veut dire que après les événements que nous avons connus dans notre province, les douloureux événements liés à l'insurrection sociale, il s'est fait qu'il y a eu un tissu social qui s'est désintégré un tout petit peu et que le retour à la paix nécessite un certain ordre. Et l'agent appelé à maintenir cet ordre-là mérite de connaître très bien les règles qui doivent le conduire afin qu'il assure une bonne maintenance au niveau de la paix.
Monsieur le gouverneur, il y a quelques semaines que les rivières Chikapa et Kassai ont été polluées par les produits en provenance de la société Sociedad Mineira de Katoka. Quel bilan faites-vous par rapport à ce que les populations ont connu?
À ce jour, nous avons à peu près 900 000 personnes qui sont affectées par ce problème. En fait, ça c'est estimatif, mais quand vous regardez environ les 450 km des villages qui longent les deux rivières, vous vous imaginez que 900 000, c'est une évaluation assez réduite. Nous remarquons qu'à travers les zones de santé, plusieurs plaintes se sont manifestées, notamment autour de 4 500 à 5 000 personnes qui se sont plaintes. Et nous avons enregistré, d'après les rapports des médecins, environ un peu plus d'une dizaine de décès liés à des troubles de ce genre. À ce jour, il y a encore des gens qui continuent de se plaindre, notamment les douleurs au niveau abdominal et aussi de la diarrhée. Nous évaluons ceci comme étant d'origine de ces intoxications.
Comment réagissez-vous face aux responsables de la société Mineira de Katoka qui minimise les faits et estime que les matières à la base du changement de la couleur des eaux ne sont pas dangereuses pour les populations riveraines car elles ne contiennent pas de composantes chimiques externes. C'est plutôt des mélanges de roches naturelles telles que du sable et de l'argile.
Ben, je trouve ça comme insultant, si c'est vrai, parce que je suis pas au courant de leurs propos. Je trouve ça comme insultant, parce que moi-même, je connais la technique d'exploitation et je sais ce que c'est la matière qu'on utilise pour faire la séparation de grosseur. Et j'estime que ce jour-là, ils seront capables de nous regarder en face lorsque nous allons nous retrouver sur la table et que nous allons définir la nature du produit que nous avons découvert dans les zones chez nous. Ce qui est sûr est que nos laboratoires ont travaillé, nous avons trouvé les produits chimiques. Il leur appartiendra de démontrer que ce produit chimique-là ne vient pas de leur part. Nous attendons la diplomatie pour agir là-dessus.
Comment analysez-vous la situation des Congolais qui sont en train d'être expulsés de l'Angola en ce moment?
Nous avons un cadre de discussion. Je pense qu'à mon retour à Chikapa dès la semaine prochaine, je prendrai contact avec mon collègue de l'autre côté pour essayer de comprendre pourquoi ils les expulsent. Mais il faut savoir également qu'il y a certains de nos frères qui se déplacent dans des conditions qui ne sont pas légales et parfois ils s'exposent à ce genre de situation. Nous allons vérifier et nous ferons le mieux pour protéger les Congolais qui sont dans la légalité et qui ont été victimes des atrocités ou de comportements illégaux de la part de l'autorité angolaise. Mais pour ceux qui n'ont pas le droit de se trouver en Angola et qui se sont retrouvés dans cette situation, nous allons voir de quelle manière nous allons les prendre en charge pour les réorienter dans notre pays.
Une dernière question. D'ici deux semaines, il y aura la rentrée parlementaire. Vos relations entre l'Assemblée?
Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. La situation s'est nettement améliorée. Les relations sont très bonnes en ce moment.
Merci beaucoup.
Merci.
Notre invité ce midi, c'était le gouverneur du Kassai, Dieudonné Piémé, qui a séjourné en Boujimaï au Kassai oriental voisin, a lancé la formation de la première promotion de 200 agents de police de sa province dans le cadre d'un projet mis en œuvre par l'OIM et financé par les États-Unis d'Amérique. Il était interviewé par Esther Ndalafina. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Ben Kabamba et Richard Junior Kamunga qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net.